Ah, d'accord.
Faut la refaire.
Faut la refaire, faut la refaire, d'accord. Pour le mettre sur le site. Donc il y a un lieu dans l'église vaudoise qui appelait pompeusement le milieu du monde. Vous avez bien écouté, c'est bien Céline. Et en fait, donc c'est un petit cours d'eau qui se jette dans une espèce d'étang. Et en fait, c'est la ligne de partage entre le bassin rhodanien, le Rhône, hein, et le bassin rhénan, le Rhin. En fait, de là va partir des eaux qui se partagent vers ces deux grandes rivières qui traversent la France, tout du moins en partie pour le Rhin. Et si on y jette une balle de ping-pong, elle va tournoyer quelque temps là, et puis elle va se diriger soit d'un côté, soit de l'autre. Et selon le point de départ, selon le choix de départ, elle va se retrouver soit dans les brumes froides de la mer du Nord, ou soit les cieux ensoleillés de la Méditerranée. Et ce sont deux destinations diamétralement opposées, mais qui commencent par un petit choix. Et c'est en soi une démonstration naturelle que dans la vie, il y a toujours un choix. Le problème, c'est qu'il faut choisir. S'il n'y avait aucun choix et si tout était prédéterminé ou laissé au hasard, en fait, il n'y aurait pas de sagesse. Il n'y aurait pas de philosophie. Ça ne servirait à rien. Hein? Nous n'en aurions vraiment pas besoin. Mais voilà, il nous faut reconnaître que tout au long du parcours de notre existence, chaque journée, nous vivons avec des choix à faire. Alors, il y a des choix sans conséquence. Que vais-je manger? Bon, il faut reconnaître que tout le monde n'a pas ce choix-là, du choix de la nourriture, et qu'il y en a qui même de nos semblables, qui n'en trouvent pas tous les jours. Mais c'est juste un exemple. Et puis, il y a des choix plus déterminants. Qui vais-je épouser? Avec qui ou vais-je me marier? Et là encore, je connais des personnes qui auraient voulu se marier, mais qui n'ont pas le choix, parce que le choix ne s'est jamais présenté à eux. Ce n'est encore qu'un exemple. Mais pour choisir, il faut donc acquérir une sagesse. Et la sagesse, dit l'Ecclésiaste, qui était Salomon, hein, qui a reçu toute la sagesse du monde. Histoire là-dessus, c'est un prof de philosophie qui amène une lampe à ses élèves, toute poussiéreuse, et puis il leur explique voilà toute cette sagesse qui est arrivée là, qui a permis de construire cette lampe, et puis voilà, il la dépoussière un petit peu, et tout à coup, il y a un génie qui sort devant toute la classe, quoi. Et le génie dit, bon, homme, toi, tu es sage, tu enseignes la sagesse à tes semblables. Eh bien, pour cela, je te donne la permission de faire un vœu. Et cet homme dit, ben, je choisis la sagesse, comme Salomon, bien sûr. Et là, la classe attend. Et puis, le maître reste silencieux. Et puis, il dit, zut, j'aurais dû choisir l'argent. Bon, c'est une petite histoire qui fait rire parce qu'on sait très bien que l'argent n'a jamais rendu personne heureux. Mais juste cette sagesse, pourtant, Dieu sait que beaucoup la recherchent, le recherchent cet argent, plus de richesse, toujours un peu plus. Et moi-même, parfois, je me laisse prendre dans ce jeu-là, hein, un peu plus, juste un peu plus. Et si j'avais ça, qu'est-ce que je serais un peu plus heureux? Mais on sait très bien que ce n'est pas une vérité, ce n'est pas une sagesse de notre siècle. C'est une sagesse, enfin, humaine, mais pas pour nous les hommes qui connaissons le Seigneur. La sagesse, on l'avait dit là, il y a 15 jours, c'est quelque chose qui nous est révélé par Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui s'obtient par. Et c'est dans sa première épître aux Corinthiens que Paul nous rappelle cela dans son premier chapitre. C'est la sagesse des hommes est opposée à celle de Dieu, et la sagesse de Dieu, c'est quelque chose qui nous est révélé, qui ne s'obtient pas par le raisonnement, mais par la révélation que seul un esprit humble peut recevoir. Et donc, on va aller un petit peu plus loin avec le deuxième chapitre de 1 Corinthiens. C'est cette histoire de la grâce. On vient d'en parler avec le repas du Seigneur. Cette histoire de la croix contient la plus grande, la plus extraordinaire des sagesses et la plus sublime des philosophies que ce monde a pu recevoir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une sagesse qui peut être perçue comme du lait pour des nourrissons ou comme de la viande pour des gens faits. Des gens, comme dirait l'apôtre Paul, et on va le lire tout à l'heure, et on l'a lu tout à l'heure avec Anderson, des gens parfaits. On verra ce que ça veut dire. Et ici, l'insistance de Paul sur le mot sagesse nous surprend peut-être, mais il s'adressait à Corinthe, à des Corinthiens. Corinthiens, c'est où? La ville de Corinthe, c'est en Grèce. Et pour les Grecs de l'époque, la sagesse, c'était quelque chose, c'était tout, quoi. La sagesse, c'était presque devenu une divinité en soi. C'était un jeu, ça faisait partie d'une vertu. La vertu la plus précieuse, c'était d'être sage. Mais cette sagesse qui était toute humaine, sagesse du raisonnement, de sorte qu'on faisait des raisonnements absurdes et on trouvait ça intelligent. Vous les connaissez, hein, un cheval bon marché, c'est rare. Un cheval rare est cher, donc un cheval bon marché est cher. Bon, raisonnement absurde. Hein, mais voilà, ça faisait plaisir. C'était intelligent. Mais la voie qui mène au bonheur, on ne peut pas la trouver tout seul. Cette voie de la sagesse, c'est quelque chose, comme on l'a dit tout à l'heure, qui nous est révélé. Et cette insistance de Paul sur la sagesse et opposer les deux mondes, la sagesse du monde et la sagesse qui vient d'en haut, et qui sont contradictoires. Elles ne paraissent pas contradictoires, elles sont contradictoires. C'est l'idée du choix. Il nous faut choisir entre la sagesse de ce monde ou la sagesse qui vient de Dieu. Il n'y a pas de milieu. On ne peut pas être entre les deux. Il y a un choix à faire et ce choix est déterminant pour notre vie. L'homme est placé comme cette balle de ping-pong au carrefour de deux routes, où on prend le Rhin, où on prend le Rhône, où on prend la sagesse du monde, des hommes, où on prend la sagesse qui vient de Dieu. Une, dit l'apôtre Paul, mène à la vie, à la lumière, au bonheur, et l'autre s'enfonce dans la nuit, la mort, et n'offre en définitive que un vide complet. Et ce vide, ce n'est pas la mort biologique, c'est la mort spirituelle. On va relire ce passage. Cependant, verset 6, c'est une sagesse que nous prêchons pour les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Faut bien, pour ceux qui l'aiment. C'est pas que Dieu aime, mais pour ceux qui aiment Dieu. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Cette connaissance, nous dit le texte, nous mène au bonheur. On ne peut pas le trouver tout seul. Pour cela, c'est cette sagesse qui échappe à ce siècle. Elle échappe aux intelligents. Cette sagesse, verset 7, elle est tenue cachée. Hein? C'est une connaissance qui ne s'obtient pas par nos facultés naturelles, verset 9, ni par la vue, car dit apôtre Paul, il le dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ça ne se reçoit pas non plus par l'ouïe. Hein, beaucoup ont entendu la parole de Dieu de la part de Paul à Athènes, peu se sont convertis, et Jésus lui-même, la parole faite chair, et les hommes ne l'ont pas reçue. Ni par les pensées et le raisonnement philosophique, on en a déjà parlé. Voilà ce que dit le livre du Deutéronome. Au Seigneur notre Dieu sont les choses cachées. Mais les choses révélées sont pour nous et nos fils à jamais, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Deutéronome 29, 28. Ce qui veut dire que Dieu connaît bien sûr toutes choses, il est le Créateur, il est le tout autre, il est celui qui a fait les cieux et la terre. On le répète, on a chanté Dieu, notre suzerain, c'est lui le maître, c'est lui. On ne peut pas s'approcher de lui et sans tomber par terre, sans tomber mort. C'est lui qui nous relève. Mais ce que veut dire le Dieu à travers celui qui a écrit le Deutéronome, Moïse, qui serait Moïse, Dieu connaît toutes choses, mais nous ne connaissons que ce qu'il nous a révélé. Et ce qu'il nous a révélé, c'est la loi de l'Ancien Testament. Et puis ensuite les évangiles. Et cela nous renvoie encore une fois au récit du paradis. Le livre de la Genèse raconte que dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre qui était au centre, qui était l'arbre de vie, hein, qu'il pouvait manger. Et puis il y avait un autre arbre, dont on ne dit pas la position dans le jardin, mais c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On pourrait dire aussi, autrement, l'arbre de la connaissance de ce qui rend heureux et malheureux. Adam avait le droit de prendre du fruit de l'arbre de vie, mais seul le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était interdit. Et c'est une manière imaginée, bien sûr, dans l'idée de dire que l'homme ne peut pas tout connaître. L'homme doit accepter ses limites. Au Seigneur notre Dieu, sous-entendu et à lui seul, sont les choses cachées. Et il y a plein de questions dans ma Bible, plein de points d'interrogation, des choses que je ne comprends pas, des choses qui ne s'obtiennent que par révélation. Un jour, nous saurons. Mais pour l'instant, il y a encore plein de questions. Mais il y a aussi plein de choses qui nous sont révélées dans la parole de Dieu, dans la loi. La loi qui pourrait être en fait l'arbre de vie. Ce que Dieu nous donne et nous permet de manger tous les jours, qui est confié à l'homme. Pratiquer la loi, c'est se nourrir jour après jour de ce qui nous fera vivre. Et il nous faut plonger nos regards dans la parole de Dieu jour après jour. Il y a ce psaume 1 qui dit: Heureux l'homme qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et Jésus d'ajouter: L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et je reviens sur cette formule: Sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les siècles, verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. C'est pas comme si Dieu avait fait un changement de programme. Bon, acte 1, Dieu donne la vie à Adam et Ève. Et puis, ils sont heureux, tout est parfait. Et puis, malheureusement, ils font une bêtise. Acte 2. Et donc, acte 3, Dieu aurait imaginé d'envoyer son fils à ce moment-là. Contre cette conception s'élève l'apôtre Paul, toujours. La croix, elle était prévue avant la fondation du monde. Elle n'est pas seulement à cause du péché, mais elle était prévue avant la fondation du monde. C'est une sagesse pour nous. Et pour l'apôtre Paul, il l'emploie et dit, la croix, Jésus-Christ crucifié, c'est une sagesse de Dieu, folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs. Et c'est notre sagesse. Et il faut là découvrir dans cette croix toute cette sagesse qui nous est donnée. Et à chaque fois, peut-être que nous prenons le repas du Seigneur, eh bien nous pouvons reconnaître encore, mais parfois avoir de nouvelles choses qui nous sont révélées sur nous-mêmes à travers le fait de manger ce pain qui représente son corps et boire ce vin, ce fruit de la vigne qui représente son sang. Et le dessein de Dieu, il est magnifique. Ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles. Pourquoi? Pour nous donner la gloire. Voilà le but de tout cela. Pour nous donner la gloire. La gloire, normalement, c'est un attribut qui est donné à Dieu et à lui seul. Mais là, l'apôtre Paul nous dit, non, pas seulement. Il veut nous faire participer à sa gloire. Et c'est notre vocation ultime, celle de participer à la gloire de Dieu. C'est le projet de Dieu pour nous. C'est le projet de Dieu pour toi. C'est de réunir ensemble Jésus-Christ, le Père, par le Saint-Esprit, non pas demain, mais tout de suite, maintenant. Verset 10, cette connaissance du plan de Dieu, cette sagesse infinie, Dieu nous les a révélées par quoi? Par l'Esprit. Par l'Esprit. L'Esprit, c'est pas quelque chose qui s'acquiert, voilà, j'ai acquis un peu d'esprit. Non, c'est quelque chose qui nous est donné, qui se reçoit. Ces choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il a aimés, pour ceux qui aiment Dieu. On pourrait dire, est-ce qu'il y a des exclus dans cela? Est-ce qu'il y a des gens qui sont exclus du projet de Dieu de faire entrer l'homme dans sa gloire? Y aurait-il des gens pour qui cela n'était pas préparé d'avance? Bien sûr que non. Le projet de Dieu, son dessein bienveillant pour tous, il veut que tous soient sauvés et participent à sa gloire. Mais pour ça, il faut ouvrir son cœur. Et de notre cœur, nous sommes les seuls maîtres. D'une certaine manière, c'est le saut dans la foi qui est dit là. Ouvrir son cœur. Je lisais un petit texte et quelqu'un disait, tu peux appartenir au Seigneur en quelques secondes. Ça prend pas plus que quelques secondes. D'ailleurs, Seigneur, entre dans mon cœur. Je te donne ma vie. C'est tout. C'est quelques secondes. Cela suffit pour changer de vie. C'est quand même extraordinaire, quoi. Extraordinaire. Mais voilà, un enfant de 2 ans apprend le pouvoir du choix. Et pour ceux qui ont un enfant qui a eu 2 ans, c'est celui de manifester son ego, son moi, c'est non, non, non. Et il y a une puissance dans le non qu'on ne retrouve pas dans le oui. Le non, c'est l'affirmation de soi. Hein? Alors que oui, c'est la confirmation de l'autre. Les deux sont nécessaires dans la vie. On a besoin de savoir dire non, c'est vrai, on a besoin de savoir dire non, parce que si on ne sait pas dire non, on risque d'avoir de gros problèmes. Mais il faut savoir dire oui aussi. Et un enfant de 2 ans, même quand il a envie de quelque chose, vous lui demandez, t'as envie de manger une glace? Non. Parce qu'il se rend compte que alors qu'il a vraiment envie de manger une glace, mais voilà, tout à coup, le non, c'est devenu un pouvoir. Et ce non, on le retrouve à l'adolescence aussi. Ce rejet de tout, rejet de ce que peut représenter la société, rejet des parents, rejet, voilà, mais c'est une rébellion contre soi-même, bien souvent. Et cette rébellion contre toute autorité, même celle dans son propre cœur, parce qu'on se dit non, je peux pas, je peux pas. Même quand cette autorité est reconnue comme juste, cette rébellion détruit. Et c'est ça le non qui finalement devient asservissement. Le petit de 2 ans, il est enfermé dans son non pendant quelque temps. Et il est asservi à ce non-là. Comme l'adolescent, pendant quelque temps, il est asservi à sa rébellion. Et certains resteront là-dedans, dans cette rébellion. Alors, comment faire le bon choix? Il y a, je discute, j'ai mes patients qui, beaucoup de mes patients qui sont musulmans et parfois ils ont cette expression d'apprendre la religion. J'ai pas bien appris la religion. Alors ça me fait sourire. Et puis je me suis souvenu de vieux cantiques, et c'est en anglais, hein, qui parlent d'apprendre la religion. Et on ne les chante plus, ces vieux cantiques, ça semble tellement désuet, apprendre la religion. Mais si vous réfléchissez bien, apprendre la religion, ça veut dire quoi, religion? Relier, la relation. Apprendre la relation. Mais c'est ça qui nous est révélé dans la parole. Apprendre à avoir une relation avec Dieu. Comment apprend-on à vivre avec Dieu? C'est ça, apprendre la religion. Comment j'apprends à vivre avec Dieu? Alors, je sais comment être en forme physique. Je sais que, bon, pour... si je veux avoir une plaque de chocolat, il faut que je fasse un bon régime, hein, pour déballer la plaque. Hein, parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas vue. Mais il faut que je fasse de l'exercice. Et je sais quel exercice il faut faire. Mais voilà, c'est difficile. C'est difficile. Mais qu'en est-il spirituellement? Eh bien, spirituellement, c'est la même chose. Il faut faire de l'exercice. Il faut s'exercer. Et le modèle employé par l'Église primitive, c'était celui-là, celui d'un maître et de son disciple. Du coaching. Hein, pour une activité spirituelle, on a besoin d'être coaché, d'être aidé. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans l'Église, il n'y a plus trop d'élèves et de maîtres parce qu'on manque de temps. L'élève manque de temps et le maître aussi. Et peut-être qu'il faudrait réfléchir à ça. Il faut savoir quels exercices effectuer pour grandir. Il faut persévérer, non pas pour l'exercice, mais pour ce qui va nous permettre d'accomplir par l'œuvre du Saint-Esprit. Dans Galates, chapitre 5, vous connaissez ce passage. On a prié avec ce passage. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Voilà l'enjeu. Et oui, mes yeux ont des désirs contraires à mes muscles. J'ai envie de manger cette plaque de chocolat. Pas juste un carré, mais la plaque entière. Mais la plaque entière. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Alors il y a une écueil, c'est celle de croire que tout va changer comme ça. Tout peut changer d'un coup. Tout peut changer d'un coup dans notre existence. Vous pouvez vous dire, demain, ou même tout de suite, ma vie va changer. Et j'espère que, moi je me dis toujours, le lundi matin, quand je me réveille, ma semaine elle va changer. Je ne vais pas avoir la même semaine que la semaine dernière. Je vais essayer de faire mieux, et puis bon, ben, malheureusement, souvent, je retombe dans les mêmes écueils, mais parfois, je peux voir de la progression. Parfois. Et vous savez, Il y a une grande différence entre un acte généreux et une personne généreuse. Ou un acte courageux et une personne courageuse. La plupart des gens sont capables de temps en temps d'actes de générosité et par un effort de la volonté. Mais il y a une différence quand on le fait tellement régulièrement qu'on n'y pense même plus. Il y a C.S. Lewis qui illustre cela de la manière suivante, c'est un philosophe chrétien. Même un joueur de tennis médiocre est capable de faire un bon coup occasionnellement. Mais c'est très différent que de pouvoir le faire régulièrement, voire 9 fois sur 10. Ce que nous entendons par un bon joueur, c'est un homme dont les yeux, les muscles et les nerfs ont été tellement entraînés à faire de bons coups qu'il peut faire confiance à son corps lorsqu'il frappe la balle, c'est cette qualité plutôt que l'action qu'on appelle vertu. Et les fruits de l'esprit ou vertus chrétiennes sont ces qualités de vie qu'on retrouve chez quelqu'un qui vit avec le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a crucifié la chair et ses désirs et qui peut vivre continuellement avec le Saint-Esprit. Alors on l'a dit il y a 15 jours, celui qui vit cela, il s'en rend pas compte. Il combattra toujours. Et plus il rentrera dans le combat dans sa vie, plus il dira, je suis nul, je suis faible, j'ai besoin de toi Seigneur. C'est l'humilité. Il faut désirer le Saint-Esprit. Il faut désirer passer du temps avec le Seigneur, avec ce qu'il nous a donné. Avec sa parole, il faut la lire, il faut la méditer jour et nuit, avoir envie, prendre son plaisir là-dedans. Pas que ce soit quelque chose de pénible, mais prendre son plaisir, une rencontre, passer. Alors on le répète souvent, 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 mais il faut le répéter souvent, et moi j'ai besoin de le répéter souvent. Il faut désirer vivre et marcher avec le Saint-Esprit. Et c'est pas comment ça se fait, ben comment ça se fait? Oui, comment ça se fait? Ben, regardez Jésus, regardez son exemple, lisez les évangiles, regardez comment Jésus faisait, regardez l'exemple de l'apôtre Paul, et puis regardez des gens dans notre assemblée, regardez-les vivre, essayez de trouver des choses qu'ils font, demandez, prenez conseil. La femme ou l'homme parfait dont l'apôtre Paul parle en introduction, c'est celui dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit cela, chapitre 6, verset 14, qui sait dire, ça c'est bon et ça c'est pas bon pour moi. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a avec le raisonnement ou l'intellect. C'est quelque chose qui nous est révélé dans la parole. La parole, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle est capable, dit l'Épître aux Hébreux, de séparer jointure et moelle. Ce qui voudrait dire que pour un boucher, on peut découper vraiment très finement. C'est ça la parole de Dieu. Et il faut la laisser opérer par l'Esprit Saint dans nos cœurs et nous révéler ce qui doit changer dans nos vies. Les certitudes qu'on peut avoir et qui sont fausses, parfois, sur notre existence, sur les choix qu'on a pu faire et qui peuvent être mauvais et dont nous devons nous détourner. Parce que des petits choix peuvent nous amener très loin du Seigneur. Très loin. Il ne faut pas laisser le hasard choisir à notre place. Et il ne faut pas croire que tout était déterminé d'avance. Le Seigneur nous donne le choix. Et ce choix-là, la vraie liberté, nous l'avons par l'Esprit Saint et par la connaissance qui nous est donnée. Je vais terminer avec ce passage dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 8. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu, la connaissance à la connaissance, la maîtrise de soi à la maîtrise de soi, la patience à la patience, la piété à la piété, l'amitié fraternelle à l'amitié fraternelle, l'amour. Si ces choses sont en vous, frères et sœurs, si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette connaissance-là, la parole nous dit que les anges ont désiré plonger leur regard. Cette connaissance-là, elle nous est donnée. Et elle est révélée pleinement à la croix de Jésus-Christ. C'est le centre de cette connaissance-là. Sa mort sur la croix et sa résurrection. Alors, méditons là-dessus, frères et sœurs. Méditons, c'est pour ça qu'on doit toujours retourner à la croix. Toujours retourner à la croix. Parce que auprès de la croix se trouve notre espérance. Auprès de la croix se trouve la révélation de ce que le Seigneur veut dire dans nos cœurs, jour après jour. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci encore pour ta parole. Tu es la parole et nous voulons vivre par ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre avec des lois ou une morale, mais nous voulons vivre, Seigneur, par ton esprit, marcher par ton esprit. Seigneur, tu lui as voulu inscrire cette loi dans nos cœurs. Seigneur, nous voulons que tu fasses grandir dans nos cœurs ce désir de te connaître. Ce désir, Seigneur, d'apprendre de toi à travers ta parole. D'apprendre et de nous émerveiller devant ton plan extraordinaire pour l'humanité. Seigneur, merci de nous faire participer à ce plan, d'avoir mis cette bonne nouvelle, cet évangile dans nos cœurs, de renouveler, Seigneur, notre intelligence et renouvelle encore notre intelligence par ton Esprit Saint sur nous ce matin. Par le nom de Jésus-Christ, nous te prions.